Non, je suis désolé, j'ai dû couper le message parce que le Justice Center for Constitutional Freedom vient d'appeler. Donc, juste pour vous dire, un avocat déjà sont sur notre dossier. Waouh, gloire à Dieu. Dieu s'occupe de nous, c'est incroyable. Donc, je continue. Là, si vous m'appelez, je ne vais pas prendre l'appel, là. Je vous rappellerai plus tard parce que je veux finir le message puis vous l'envoyer. Donc, je vous disais que. C'est ça, c'est dit dans Isaïe. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et donc, pour le mettre dans notre réalité, on ne peut pas subsister dans l'hostilité actuelle qui sévit et qui détruit l'âme, la vie, le courage, si on porte notre attention à la mauvaise place. Si on se concentre sur le mensonge, au lieu de se concentrer sur la vérité, sur Christ qui nous a affranchis, si on porte le regard sur les serpents brûlants, au lieu de le porter sur le serpent d'airain que Dieu a élevé, on va être fichu. Notre foi doit résider ferme dans le Seigneur Jésus-Christ. À ce niveau, écoutez aussi ce que ça dit encore dans Ésaïe, mais cette fois-ci au chapitre 8. Les versets 12 et 13 disent: N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Waouh! C'est l'appel de la foi, de la confiance qui était lancé à l'appel d'Ésaïe et qui aujourd'hui aussi est notre choix. Nous sommes devant la vie et la mort, le peuple de Dieu. À qui on va regarder va susciter soit un avancement dans la mort, la division, le découragement ou la vie, la sanctification. Nous devons sanctifier Dieu au milieu de nous. C'est ça notre défense, la première et la plus grande. Écoutez encore ce que ça dit, toujours dans ce passage d'Ésaïe à partir du verset 14. Donc, je poursuis ma lecture. Ça nous parle ici de l'Éternel. Il sera un sanctuaire. Oh oui, Dieu est notre sanctuaire et on le sanctifie parce qu'il est notre sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Wow! Vous savez, le contexte d'Ésaïe nous aide à comprendre. Dieu appelait son peuple à lui. Il voulait comme ça l'appeler à se confier en lui par ses prophètes. Et Ésaïe n'était pas le seul. Dieu a envoyé dès le matin, ça nous dit dans Jérémie, plusieurs de ses prophètes. Mais écoutez quelle était l'attitude du peuple. Le livre d'Ésaïe ouvre en disant, au chapitre 1, versets 5 et 6, quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et ça nous dit aussi au chapitre 9, verset 12, le peuple ne revient pas à celui qui le frappe ou qui le châtie. Il ne cherche pas l'Éternel des armées. Mes amis, ce qui arrivait à l'époque d'Ésaïe, je crois, c'est ce que nous vivons en ce moment avec l'Église de Jésus-Christ, qui, au lieu de comprendre et d'interpréter ce qui arrive à la lumière de la parole de Dieu, voyant que le jugement commence par la maison de Dieu, et d'ainsi rechercher l'Éternel, revenir à l'Éternel qui nous châtie dans son amour, trop de chrétiens s'égarent. Soit dans des conjurations, tout ce qu'on entend dans les médias et tout ça pour la peur, ou les conspirations, parce que on sait, on croit aux conspirations en tant que chrétien, on sait qu'il y a un Dieu, qu'il y a Satan, qui est le prince de ce monde, mais on peut s'égarer aussi. Il y a des pièges là-dedans de regarder à la mauvaise place, des choses qui peuvent être vraies, mais qui nous égarent de Christ. Et le produit de tout ça, c'est un endurcissement spirituel généralisé. Et quasi incurable en dehors de l'intervention extraordinaire de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin en ce moment de garder les yeux sur Christ, notre vie. Nous avons la vie par son sang. Il nous a rachetés, nous sommes sauvés par sa vie. Et ça m'amène à la deuxième source, non seulement le sang, mais aussi sa parole. Et juste avant d'aller à ce point-là, mercredi, le 12 janvier, on a eu un temps spécial à l'église. C'était simple, je me rappelle plus qui était là, on était une petite gang pour la réunion de prière. Et Dieu a vraiment, je pense qu'il a saisi nos cœurs d'une façon spéciale avec sa parole dans Lamentations, au chapitre 4, des vérités puissantes et actuelles. Et ça l'a insufflé la vie à notre temps de prière. Et donc, ça nous amène à voir cette deuxième source de Christ, notre vie triomphante, non seulement le sang de l'agneau, mais la parole de délivrance. La vie de la parole de délivrance. Ça nous dit, toujours au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, comme on vient de voir, et ça dit, deuxième cause, à cause de la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. Leur témoignage, c'est que Christ était leur vie, comme je l'ai dit au début. Christ les avait délivrés de la colère à venir. Ils n'étaient plus sous le jugement de Dieu. Et eux, face à cette hostilité, et c'est drôle, j'en parle au passé, alors que c'est dans l'avenir, mais parce que je pense à la Bible, on pense à la Bible, c'est dans le passé. Ils recherchaient une délivrance meilleure. Comme ça dit par la foi, hein, dans Hébreux au chapitre 11, ça nous parle de par la foi, des femmes recouvrèrent la mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance immédiate, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Oh, ça aussi, c'est d'actualité. Rechercher une meilleure délivrance, celle de Dieu. Et quand ça parle de la parole de leur témoignage, le mot témoignage, nous avons de ce mot grec le mot martyr. Et on connaît le mot martyr, c'est quoi? Et je crois que c'est significatif encore là, en ce moment, parce que beaucoup de chrétiens de l'époque du Nouveau Testament, alors que la Bible était écrite, et je vous ai exhorté à lire 1 Pierre était écrit exactement dans ce contexte, ils ont donné leur vie en témoignage de Dieu et de sa parole. C'est l'héritage spirituel qui dure encore aujourd'hui. Ils ont été témoins de qui Dieu est. Leur témoignage, ce n'était pas pour eux. « Ah, je veux, moi, être un témoignage devant le monde. » Non, je veux que Dieu rende témoignage de qui il est à travers ma vie. À travers le vase de terre que je suis, je veux que sa lumière, celle de sa grandeur, de sa fidélité, de sa justice, de son amour, de sa puissance et de sa grâce soit manifestée. C'était ça leur témoignage. Par contre, trop de chrétiens et de leaders chrétiens, en ce moment, sont littéralement sans intelligence. Sans intelligence biblique. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu comme ils devraient le connaître. Ce Dieu qui est digne justement de martyr, de notre entier et plein dévouement, et ce même jusqu'à la mort. Ça dit qu'on devrait être prêt à mourir pour Dieu aussi, mourir pour les frères. Wow! C'est comme ça que ces personnes souvent, et je crois, beaucoup d'enfants de Dieu là-dedans sont sincères. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont trompés. Ils sont sans intelligence dans le sens qu'ils ne voient pas que tout n'est pas la question sur mon témoignage et moi, mais c'est Dieu ici qui est en jeu. La sincérité, mes amis, ce n'est pas le critère pour Dieu, pour la fidélité, c'est la vérité. On peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Dieu veut qu'on marche dans la vérité. Et il faut comprendre justement que la révélation de la parole de Dieu, la vérité, on dit la Bible, ta parole, sanctifie-la par ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité de la parole de Dieu, c'est la révélation de qui Dieu est, de sa majesté, de sa suprématie, de son autorité suprême et absolue. C'est ça la Bible. Et en ce sens-là, réduire la révélation de la parole de Dieu simplement à une question très pointue et spécifique de la soumission au gouvernement, c'est une grave perversion des Écritures. C'est prendre un texte, puis le sortir de son contexte pour en faire quelque chose de majeur alors que c'est secondaire. C'est pas sans importance, mais la Bible, c'est la révélation que le Dieu de la Bible, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, justement. C'est pas le gouvernement qui est ça. Et bien plus, je crois que derrière ça, non seulement il y a de la tromperie, mais il y a ce piège d'aimer sa vie, ma vie à moi, au point de ne pas accepter la mort. Ça, c'est lorsqu'on n'appréhende pas par la foi que Christ est notre vie. Et plus que notre vie, Christ est notre vie triomphante. Mes amis, face à tout cela en ce moment, je crois que la question, plus que jamais auparavant, c'est comme on l'a dans notre texte, est-ce que j'aime ma vie jusqu'à craindre la mort? Ou est-ce que je ne la crains pas et qu'à cause de ça, je ne crains pas la mort? Vous savez, en ce moment, on vit le phénomène de l'auto-rédemption. Ceux qui écoutent mes messages depuis un bout de temps, vous savez que c'est une expression que j'utilise souvent, l'idée « on se sauve nous-mêmes », comme avec Jésus qui rentrait triomphalement à Jérusalem. « Hosanna », ça veut dire « Oshiana », « sauve maintenant ». Sauve maintenant de l'oppression des Romains. On veut un messie politique. Et savez-vous, notre frère Kevin, dans un temps de prière, nous partageait ça. On dit que les Juifs veulent un messie politique. Les chrétiens, c'est pareil. On recherche la délivrance par la politique. Et ce qu'on voit avec ça, c'est quoi qu'on voit en ce moment? On voit beaucoup cette auto-rédemption, le salut maintenant ici-bas. Dans notre société, je pense que ça atteint des proportions rarement égalées, en tout cas de notre vécu. Et bien évidemment aussi, ça affecte les églises depuis 2020-2021 avec le COVID, qui est, quelqu'un appelait ça du sanitarisme, ou d'autres vont dire du COVIDisme, mais c'est une idéologie politique, philosophique et spirituelle. Et mes amis, vous ferez vos recherches, vous regarderez vous-même, mais dans Apocalypse chapitre 18, verset 23, il y a le terme, c'est enchantement en français. Le mot en grec, c'est pharmacopia. Je crois que tout ce qui est derrière ce qu'on voit là, c'est une version moderne du culte païen de la pharmakia. La pharmacopia, le salut par la médication, le salut par le vaccin. C'est vraiment comme une religion, un culte, où est-ce qu'on ne remet pas en question les autorités, on fait tout ce qu'ils disent. Mais même avant ça, il y avait le culte à Gaïa, qui est un autre culte païen. Sauvons la planète! Et ça, malgré que c'est très clair que la Bible nous dit que les éléments vont être embrasés et que ces gens-là, dans 2 Pierre, on apprend que ces gens-là qui ont ce discours-là renient Dieu, qu'ils ignorent volontairement que la Terre a été créée et tout ça. Donc, c'est une description des temps modernes et cette idée de sauver la planète, que dans le fond, c'est de la vanité parce que cette planète va être détruite. Mais ici, je m'adresse à l'enfant de Dieu, authentique, qui connaît la parole, qui connaît le Dieu de la parole pour s'y être confié. Cet enfant de Dieu-là est convaincu que ses délivrances, que ce soit de la pharmacopia ou de Gaïa, c'est-à-dire le sanitarisme ou l'environnementalisme, ses délivrances sont fausses, sont futiles, sont trompeuses, parce qu'elles ne connaissent pas et ne considèrent pas celui qui est la vie triomphante. Parce que même si on sauverait la planète, même si on sauverait, on essaie de sauver le monde au complet, si on perd notre âme, ça ne sert à rien. Quand même qu'on aurait la solution pour ne plus avoir de virus, le problème, le virus mortel de l'humanité, c'est le péché. Et c'est ça que le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ a perdu de vue. Le plus grand danger, mes amis, qui repose sur notre monde, c'est pas un virus, c'est pas l'environnement, c'est le péché. Et la seule solution, c'est le sang de Christ et la révélation de sa parole. Il se révèle dans sa parole comme étant le sauveur, le rédempteur. Voilà le message que nous, chrétiens, doivent faire retentir haut et fort dans toutes les sphères de nos relations à travers la société. Et ça transcende la politique et la religion. Et je crois que Dieu nous place en ce moment. Et je crois qu'il va faire des choses en ce sens-là cette semaine. C'est pour ça que j'ai à cœur de vous partager ça. Dieu nous appelle à quelque chose de spécial avec ça. Dieu veut sortir de juste les 4 murs de l'Église et faire retentir son message de salut. Il veut qu'on luise parce que les temps sont mauvais, on doit racheter le temps. Et vous savez, il y a quelque chose de spécial. De moins en moins, on peut faire la différenciation entre le politique et le religieux. De moins en moins. Pourquoi? Parce que les politiciens sont de plus en plus religieux avec leur pharmacopia et leur Gaïa. Hein, ils demandent une allégeance et ils disent « Ah, la science », mais on voit qu'il y a tellement de contradictions, il n'y a pas de logique et on sait que ce n'est pas la science. C'est vraiment, ils demandent une foi aveugle dans ce qu'ils disent. Mais malheureusement aussi, beaucoup de gens religieux sont de plus en plus politiques. Où est-ce qu'ils demandent une allégeance? Ils insistent sur une soumission au gouvernement en tout point et en tout temps. Voyez-vous qu'il y a une confusion générale avec ça? Les politiciens sont rendus religieux, puis les religieux sont rendus politiciens. Mais les enfants de Dieu qui connaissent l'Éternel connaissent ce que Jonas a dit dans sa prière, dans Jonas 2:10, le salut vient de l'Éternel. Mes amis, ça, ça supplante et ça surpasse toute vaine tentation d'auto-rédemption. Le salut vient de l'Éternel. Surtout lorsque c'est mis de l'avant avec la parole de délivrance, cette parole qui régénère notre âme, cette parole qui fait toute la différence lorsqu'on y est exposé. Parce que Christ, notre vie triomphante, c'est notre plus grande assurance. C'est notre hardiesse, c'est notre source de courage. Parce qu'il s'est révélé à nous dans sa grâce et dans sa parole de délivrance. Mes amis, ça m'amène à conclure avec ceci. On ne doit pas regarder les temps présents, les circonstances de façon pessimiste, comme une calamité, puis ça finit là. Au secours, Seigneur, viens nous chercher. Non, on doit regarder les temps présents comme une opportunité. Comme l'opportunité de manifester Christ, notre vie triomphante, et ce d'une manière inouïe. Écoutez ce que ça nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 10 et 11. « Portant avec nous, dans notre corps, la mort de Christ, de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » On a l'opportunité de laisser la vie triomphante de Christ se manifester en nous des faibles vases de terre. Même chapitre, verset 7. Où est-ce que ça parle de ces vases de terre? Afin que la gloire soit pas à nous les chrétiens, à notre Église, mais à Christ, à notre Dieu qui se révèle à travers ça. C'est notre appel, mon ami, mes amis. Notre appel, encore dans 1 Pierre. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Mes amis, saint, c'est pas l'idée de sainte ni touche. Oh, moi, je suis sans péché, je suis meilleur que les autres. Non, non. L'idée, c'est, on est à part. On est dans une catégorie hors concours. On n'est pas dans le concours de l'auto-rédemption du monde. Non, non. Nous, on est avec l'Éternel qui sauve. On n'est pas dans le monde qui essaye de sauver lui-même. Nous sommes des enfants de Dieu rachetés par le sang de l'agneau. Et c'est ça, notre appel, de faire connaître cette délivrance. C'est ça le seul espoir de ce monde. C'est pour ça qu'on est encore sur terre. C'est ça qu'on doit connaître, expérimenter, proclamer, partager. Christ, notre vie triomphante. Encore un quelque chose dans 1 Pierre, cette fois-ci au chapitre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Est-ce qu'on vit à la lumière de cet appel noble et glorieux que nous avons en partageant la lumière de la parole de Dieu et la miséricorde qu'on a eue, qu'on la partage avec les autres? Un frère me partageait, vous savez, j'ai été pas mal au téléphone ces derniers 24 heures, mais un frère me partageait, j'ai trouvé ça vraiment bon. Vous savez, nos leaders, on peut les haïr, on peut dire, ah, s'ils meurent, ça va être un bon débarras. Vous savez pourquoi? Satan serait bien content aussi parce qu'il y appartient déjà. S'ils meurent, ils vont aller en enfer parce qu'ils ne sont pas encore sauvés. Mais si on prie pour leur salut, si on combat dans la prière pour leur âme et que Dieu les sauve, Satan perd des gens qui sont avec lui. Et c'est vraiment comme ça qu'on doit voir les choses, combattre. On ne combat pas contre la chair et le sang. Et ces gens-là, même s'ils font du mal, même s'ils sont insensés, comme nous étions tous d'ailleurs, s'ils passent des ténèbres à la lumière, comment Dieu va être glorifié? Que ça, ça nous anime, mes amis. Cette pensée que nous sommes ici sur cette terre avec le désir de partager celui qui est notre vie triomphante et qui peut l'être aussi pour ceux qui le reçoivent. J'aime tellement Ésaïe 50, j'ai beaucoup cité dans Ésaïe, dans 1 Pierre à ce matin, puis d'ailleurs, Pierre aussi, il cite Ésaïe. Ésaïe 57, verset 15, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Oh, Dieu est redoutable, il habite une lumière inaccessible. Mais regardez la deuxième partie du verset. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Gloire à Dieu qu'avec notre Dieu, on a absolument tout. C'est pas la fin de l'histoire quand on a des choses qui nous arrivent. Les calamités sont des opportunités. Notre Dieu est le Dieu qui change de mal en bien. Notre Dieu est redoutable, mais il est aussi le Dieu qui visite les gens contrits et humiliés. Il ranime les esprits humiliés, il ranime les cœurs contrits. Mes amis, que ça soit pour nous, notre espoir, mais aussi pour ceux autour de nous. Et c'est pour ça que plus que jamais, on a besoin de se rencontrer, de se réunir. On a besoin les uns des autres. On a besoin de Dieu, mais aussi on a besoin les uns des autres parce qu'on est membres les uns des autres. Que Dieu bénisse sa parole dans chacun de nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime d'un amour tendre. Je vous chéris dans Jésus-Christ, mon cher Seigneur, dont j'ai l'honneur d'être un petit sous-berger comme ça. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur que tu es au milieu de nous. Hier, on a vu ta gloire d'une façon unique. On t'en remercie. Je te remercie que tu es au milieu de nous comme un héros qui sauve. Et tu as pour nous des chants, des transports d'allégresse. Oh, merci qu'en Jésus-Christ, nous sommes dans le bien-aimé. Et Seigneur, merci que pour un temps, tu nous as permis de nous fortifier là-dedans. Et là, tu brises les murs de notre église. Tu nous fais sortir. Et il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans. Je ne sais pas trop comment tout ça va se passer. Mais toi, tu sais. Et Seigneur, on veut, au bout du compte, te faire connaître. Glorifie-toi. Seigneur, on ne veut pas devancer les choses que toi, tu veux faire. On veut embarquer dans le travail que tu fais. Et déjà, Seigneur, on est tellement content. Hier, ça faisait partie de ça. Ce n'est pas nous qui avons orchestré ça, c'est toi. Tu as permis, tu es souverain, tu as permis que les choses se passent de même, on t'en remercie parce que tu es un Dieu qui a un plan, qui sait ce qu'il fait. Seigneur, c'est notre confiance, c'est notre joie, c'est notre paix. Merci pour mes frères et sœurs bien-aimés. Merci pour les perdus que tu nous amènes sur notre chemin. On te prie, on supplie, Seigneur, que tu aies pitié d'eux, que tu aies miséricorde comme tu as eu miséricorde pour nous. Même quelqu'un qui écoute ce message, qui ne te connaît pas encore, qui voit, qui se tient devant un Dieu trois fois saint, et qu'il a à se repentir, à se tourner vers Christ comme son seul refuge, son seul salut, la seule façon d'être pardonné, réconcilié avec toi. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.